La Sainte-Cluc. Je rappelle, Monsieur Sainte-Cluc, que vous êtes d'une part conseiller départemental, mais sans vouloir établir de hiérarchie peut-être plus important parce que ça vous prend davantage de temps, vous êtes porte-parole du groupe J'aime Narbonne, c'est-à-dire l'opposition municipale, vous êtes conseiller municipal, et c'est peut-être là qu'on, médiatiquement en tout cas, on vous voit le plus, et c'est probablement aussi ce qui vous donne, vous le direz, le plus de travail. Juste un petit mot sur ce portfolio dont vous êtes à l'origine, je crois.
Alors, l'équipe municipale de Jacques Bascou était à l'origine. C'est vrai que moi, en tant qu'adjoint à la communication, je l'avais porté, je l'avais présenté en bureau municipal, et ça avait plu vraiment au plus grand nombre. Et du coup, effectivement, on l'avait lancé. Alors en 2012, hein, c'était l'année zéro, puisqu'on avait fait une préconfiguration. Et après, c'est en 2013 que vraiment il a vu le jour, où ça a été vraiment un grand succès. Et 2014, donc ça avait été la fin de ce portfolio, hein, une première fois, le maire l'avait arrêté. Et aujourd'hui, donc effectivement, il paraît que ce portfolio ne se fera pas. Le Grand Narbonne et le département avaient, comme la mairie d'ailleurs, avaient attribué des subventions, hein, c'était prévu. Par contre, effectivement, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais il y a eu quand même des erreurs apparemment de fait, hein, au niveau effectivement de la manière dont ça a été abordé, aussi par rapport aux partenaires privés, par rapport
oui,
au lieu,
ce,
au
qu'évo- lieu, ce qu'évoquait Michel
voilà,
Santo.
Lieu a mis à disposition effectivement des partenaires privés qui ont vu que ce festival allait être finalement à la baisse, et du coup, bien aujourd'hui, on a la disparition de ce portfolio, on le regrette fortement parce que ça fait quand même maintenant, nous avons le festival Charles Trenet, nous avons la Biennale de l'Aquarelle, maintenant ce portfolio, enfin, c'est-à-dire ce qui permettait effectivement de faire rayonner Narbonne au-delà de ses frontières. Comme le dit souvent le maire, il veut faire rayonner la ville, mais aujourd'hui, elle rayonne de moins en moins.
Bien. Alors, Nicolas Sainte-Cluc, si vous êtes là, c'est, comme je le disais à l'instant, c'est d'abord parce que vous êtes le porte-parole de l'opposition municipale, et forcément, on s'est aperçu, et on y est revenu plusieurs fois dans cette émission, qu'au sein du conseil municipal, alors, il y a des problèmes, et au sein des séances, surtout du conseil municipal, c'est parfois très heurté. Alors, et vous allez essayer de nous expliquer, c'est pas toujours facile, mais pourquoi, par exemple, le dernier conseil municipal précédent a été... il y a eu des annulations sur le dossier.
Alors le conseil municipal, effectivement, du 19 janvier 2017 a été annulé en partie. Tout d'abord parce que le maire avait décidé de prononcer un huis clos, seul, sans consulter l'Assemblée délibérante,
oui,
c'est-à-dire l'ensemble des conseillers.
Il a demandé au public de sortir,
d'évacuer,
ainsi qu'à la presse.
Tout à fait, à tout le monde. Donc le huis clos, c'est en fait plus personne n'a le droit d'assister au débat.
Donc ça n'est plus une séance publique.
Voilà, tout à fait. Et c'était interdit, puisqu'il faut que ce soit le conseil municipal qui le décide, dans l'ensemble des conseillers municipaux. Et ensuite, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, qui préfigure ce que va être le budget de la ville en 2017, eh bien, un certain nombre d'éléments n'apparaissaient pas dans ce rapport d'orientation budgétaire, notamment des éléments financiers très importants. Et c'est pourquoi j'ai été contraint, effectivement, d'écrire à la préfecture, pas de failloter, hein, d'écrire tout simplement à la préfecture, pour faire respecter la démocratie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un débat d'orientation budgétaire qui soit fait en toute transparence, en ayant des chiffres réels sur la situation financière de la ville, surtout au vu, effectivement, du projet phare de M. Mouly, qui est sa salle multimodale, à aujourd'hui 23,5 millions d'euros.
Alors, un petit mot, Michel.
Non, mais il faut simplement préciser que ces éléments financiers dont fait état Nicolas Sainte-Cluc sont des avancées obligatoires. C'est-à-dire que la loi, les textes obligent la commune, effectivement, à présenter ces éléments financiers en question qui ne figuraient pas dans le premier document.
Oui, voilà pourquoi la préfecture, tout faillotage mis à part, vous a écouté, monsieur Sainte-Cluc, si je comprends bien.
Voilà, elle m'a écouté. Elle fait respecter tout simplement voilà, elle ne peut pas faire autrement. Et c'est à cette occasion, donc, lors du deuxième conseil municipal du 1er mars 2017, que nous avons pu effectivement voir que les chiffres avaient été tronqués et que la situation de la ville est bien différente de celle qui nous avait été présentée. En clair, aujourd'hui, on a une capacité d'autofinancement nette qui est de moins 1,5 000 euros en moyenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos recettes sont inférieures à nos dépenses. Donc en clair, il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de trésorerie. Donc du coup, notre capacité...
Alors ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, pour faire simple, c'est les économies du ménage, en quelque sorte.
C'est ce qui permet de faire des investissements. Quelle est notre capacité
d'investir ?
C'est
ce qui reste, voilà.
C'est l'épargne nette, si au terme.
Voilà. Donc à partir de là, effectivement, bien la situation est très problématique, surtout au vu de cette salle multimodale. Et deuxième élément qui était aussi étonnant, c'est que dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, il était bien présenté qu'il allait y avoir une salle multimodale, mais n'apparaissait pas le financement de cette salle. Et dans le cadre du conseil municipal du 1er mars, ont été rajoutés le financement. Et le financement, quel est-il? Et là, oh surprise, j'ai même un grand désarroi. Je peux vous dire, j'ai eu un grand désarroi, et parce que c'est quand même quelque chose d'important. Là, on parle de choses sérieuses pour les Narbonnais, hein, parce que c'est leur avenir qui est quand même en jeu, l'avenir en tout cas de nos finances. Et premier élément, c'est l'autofinancement. Ben, l'autofinancement, il n'y en a pas, puisque je vous ai expliqué que la situation est négative, donc on ne peut pas dégager de financement. Deuxième chose, les subventions aux collectivités publiques. C'est-à-dire que toutes les collectivités qui n'ont pas été associées à ce projet, on leur demande maintenant des subventions, à savoir le Grand Narbonne, qui peut pas d'ailleurs financer une salle de ce type, parce qu'il n'a pas les compétences, la région et le département. Et ensuite, et là, vraiment, heureusement qu'on était tous assis, il veut financer la salle à hauteur de 1 million d'euros par an avec les amendes de la police municipale.
Alors, c'est pas illégal, ça.
C'est pas illégal, mais... Déjà, sur le principe, ça peut choquer quand même. Hein. Un appel à l'incivilité ou à l'incivisme pour effectivement financer une salle multimodale, moi je ne l'avais jamais vu.
Alors, un appel au zèle des fonctionnaires municipaux, effectivement, à poser leur PV, en fait.
Tout à fait. Et j'ai fait un petit calcul. Donc, 1 million d'euros, ça représente, on a à peu près que 53 500 habitants. Bien, ça fait 18,70 euros par habitant, tout inclus, c'est-à-dire par an. Donc, ça veut dire les grands-mères, tout le monde, les bébés, tout le monde. Et ceux qui n'ont pas de véhicules aussi. Et si on ramène, on imagine qu'il y a à peu près 10 000 véhicules dans la ville, ça veut dire 5 amendes minimum par personne chaque année.
Donc, oui, quand même.
Oui.
C'est inquiétant pour les automobilistes narbonnais,
potentiellement. Ça peut être inquiétant aussi pour les personnes qui promènent leurs chiens, parce que vous savez que depuis un arrêté de monsieur le maire, il est interdit maintenant de promener en laisse son chien dans un parc public.
Bon, donc ils sont susceptibles aussi d'être verbalisés.
Tout à fait.
Oui, les chats aussi.
Bon, et alors, donc finalement, votre groupe d'opposition et l'association d'ailleurs J'aime Narbonne, dans laquelle vous êtes également, Monsieur Saint-Cluc, s'est opposée au point d'ailleurs d'aller distribuer des tracts dans la ville, s'oppose catégoriquement aujourd'hui à la construction de cette salle.
On s'oppose catégoriquement.
Ou en tout cas sous cette forme-là.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce que déjà par rapport à l'ampleur du projet, c'est-à-dire 23,5 millions d'euros, aujourd'hui c'est ce qui est annoncé. Hein. D'ailleurs, sachez que le marché, le choix du groupe d'entreprise qui doit en principe réaliser cette salle va être opéré mercredi prochain. Je crois que c'est d'ailleurs, c'était vendredi dans la presse. Et il a été déjà chiffré à 23,5 millions d'euros. Alors on verra si ça correspond effectivement à un projet qui est déjà préétabli, apparemment. Le choix semble avoir été déjà fait. Mais 23,5 millions d'euros, c'est énorme par rapport à la situation de la ville. On n'a pas les capacités, en fait, aujourd'hui de financer un tel investissement, puisqu'effectivement, même si on recourt à l'emprunt, quand on n'a pas de recettes, lorsqu'on a une situation comptable déficitaire, vous pensez bien que les banquiers vous prêtent avec un argent plus cher, avec des taux d'intérêt plus importants. Et on va vers là, apparemment, puisqu'effectivement, un autre point du plan de financement présenté par monsieur le maire, c'est le recours à l'emprunt. Aujourd'hui, on avait un recours à l'emprunt qui était plutôt exemplaire. On avait effectivement une très très bonne gestion. On était en dessous des strates des villes de même importance au niveau du taux d'endettement. Et là, on va aller sur un endettement beaucoup beaucoup plus important. C'est ce qui apparemment est préparé par la municipalité. Et du coup, on va mettre en péril effectivement, bien tout simplement, les finances de la ville et notre capacité d'investir sur des domaines beaucoup plus importants. Parce que c'est bien, effectivement, de faire une salle de ce type, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est quelle est l'efficacité. Le lieu aussi, qui pose un réel problème, hein, notamment aussi au niveau des parkings, puisque aucun parking n'est prévu, alors qu'il va y avoir aussi le Murina qui va être construit à quelques pas de là. Donc va se poser des conflits aussi, des problèmes de voisinage, de
dérivement. Le lieu, d'ailleurs, lui-même est contesté par un mouvement de citoyens, par une association de citoyens qui s'est constituée également.
Oui, il touche pas à mon parc, tout à fait. Et ensuite, vous avez le problème du fonctionnement d'une telle salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un équipement de ce type coûte très très cher chaque année à la ville. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent chaque année, en plus de l'investissement qu'il faut financer et des emprunts qu'il faut payer. C'est-à-dire qu'une salle de ce type, on a évalué à peu près, par rapport à ce qui se fait ailleurs, entre 1 million et 2 millions d'euros par an. C'est-à-dire à la fois les fluides, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut consommer, l'électricité, le nettoyage, l'eau, etc. Ensuite, le personnel et ensuite l'achat des spectacles. Parce que même si vous pouvez aller jusqu'à 4000 personnes. Il faut savoir que les spectacles sont souvent très très chers, de plus en plus chers. Et si vous avez une politique de prix modérée par rapport à, effectivement aux personnes qui peuvent aller voir les spectacles, eh bien vous êtes obligé à chaque fois d'être en perte. C'est-à-dire que si vous achetez un spectacle par exemple 200 ou 300 000 euros, vous avez 150 000 euros de recettes et le reste vous le prenez pour vous. Oui. Et c'est pour ça qu'effectivement cette structure sera forcément déficitaire et elle empêchera du coup de faire d'autres choses. Et notamment ces 2 millions d'euros de fonctionnement peuvent correspondre par exemple aux 2 millions d'euros qui sont consacrés aujourd'hui par la ville, hors bien sûr subvention par exemple à l'office de tourisme ou au comité des œuvres sociales de la ville, à 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la ville donne 2 millions d'euros de subventions aux associations. Si on n'a plus ces 2 millions d'euros et si on les met dans la salle, eh bien, ce qui va arriver, c'est tout simplement qu'on ne pourra plus effectivement subventionner. Et même les clubs sportifs, comme le volley, moi je comprends qu'ils veuillent faire effectivement une salle pour le volley, mais est-ce que les recettes par cette nouvelle salle vont compenser la perte d'une subvention de 400 000 euros de la ville ? Il faut se poser des bonnes questions.
Mmh. Alors je reviens succinctement sur cette notion de capacité d'autofinancement. Mmh. Vous dites et excusez-moi, mais vous prétendez donc nous démontrer qu'elle n'y est pas. Or, monsieur Maltier, donc le premier adjoint, vous répondant lors du dernier conseil municipal, lui dit nous sommes de bons gestionnaires, la capacité d'autofinancement sera positive, comme si on pouvait croire, comme s'il y avait une notion de credo et de croyance là-dedans.
Il utilise le futur, hein. Elle sera quand, en fait, dans 15, 20 ans. Non, je veux dire, aujourd'hui.
Ah, c'est de la conjugaison, alors, Michel.
Aujourd'hui, non, mais à l'instant T, elle est, bon, moi, j'ai pu le constater en lisant les documents, elle est négative, moins 1,5. Elle le sera forcément dans les 3 ans qui viennent. Bon, ça veut dire que.
On a l'impression qu'il y a un pari.
Alors, pour être plus précis, alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, lors de la présentation du budget, du débat d'orientation budgétaire lors du 1er mars, auquel d'ailleurs vous avez assisté, n'a pas été présenté, il n'y a pas eu de PowerPoint, il n'y a pas eu de présentation au public ni à la presse des éléments financiers qui étaient dans ce rapport d'orientation budgétaire qui nous était présenté à nous, aux conseillers municipaux. Et notamment, en 2016, on s'est aperçu que la capacité d'autofinancement de la ville en 2016 est de moins 1,700 000 euros. Et elle est prévue pour 2017 de moins 1,500 000. Donc les chiffres sont clairs. Je n'ai pas à faire d'interprétation. C'est-à-dire que, effectivement, la seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de cacher ces chiffres en disant mais les cessions, les produits de cession, c'est-à-dire la vente. Ce que appelle d'ailleurs le maire dit, la vente des bijoux de famille. Oui, effectivement, on vend aujourd'hui, on vend plus qu'on achète. Et la ville vend tout son patrimoine immobilier. Notamment, on a vu un arbre de plage, le parking là qui peut servir effectivement à faire en sorte qu'on n'ait pas envahissement de véhicules partout le long de la plage, etc. A été vendu à un groupe bien connu. Et ça continue, et ça va encore continuer. J'ai d'ailleurs indiqué lors du conseil municipal, est-ce que monsieur le maire, vous allez aussi vendre bientôt l'aspirateur ? Est-ce que vous allez vendre aussi le CCAS qui vient de déménager. Et effectivement, on vend tout. Et donc, ça permet cette vente de camoufler un peu les chiffres, parce que c'est une recette, mais c'est une seule fois. Et après, on n'aura plus rien. Et tous ces équipements qui peuvent nous servir pour l'avenir, on s'en défait. Et du coup, on n'aura plus de maîtrise sur rien.
Alors, est-ce que c'est ça qui permettrait à M. Maltier cet optimisme ? Je regrette en tout cas, d'ailleurs, qu'il ne vienne toujours pas à ce micro sans l'expliquer.
Je pense qu'en tant qu'agent immobilier, effectivement, il est pour que les ventes soient
oui, faites. Je parle moi du premier adjoint. J'espère qu'un jour, il viendra ici s'en expliquer. Ça n'est toujours pas le cas. Ça lui permettrait, en tout cas, de faire passer le message sur lequel nous nous interrogeons aujourd'hui.
Tout à fait.
Oui, je sais pas que je veuille ramener les choses à ce que j'avais écrit le lendemain même de l'élection de Didier Mouly, quand il prétendait qu'il pouvait à la fois diminuer les dépenses de fonctionnement, diminuer les impôts, faire investir. Je faisais observer que on était dans une situation, une conjoncture aujourd'hui qui ne permettait pas de tenir ces trois paramètres, hein, et que forcément il y aurait ce qu'on appelle un effet de ciseaux, c'est-à-dire qu'un jour, hein, le montant des dépenses, hein, serait supérieur au montant des recettes. Et quand on est dans cette situation, on se retracte, on fait des choix très 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 rigoureux sur les investissements. L'alternative, c'est de ne plus faire d'investissement. Oui. C'est de les sélectionner de manière rigoureuse, avec ceux qui ont le moins d'effet en termes de fonctionnement, justement. Et là, on fait l'inverse.
Bon, donc on peut s'attendre à ce que ce projet soit encore très contesté dans les mois et dans les années qui viennent.
Ah, tout à fait. Il en va de toute façon de nos finances.
C'est-à-dire que ça sera votre combat majeur dans les années qui viennent.
Parce que si ce projet se fait, quelles que soient les personnes personnes qui prendront la ville par la suite, ça peut être aussi toujours Monsieur Mouly ou quelqu'un d'autre, ça va être très 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 compliqué. C'est-à-dire que ça ampute l'avenir pour les 20 ans à venir. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire pendant très longtemps. Et comme l'a indiqué Monsieur Michel Santo, il y a d'autres investissements qui sont importants et qui sont devant nous, des défis à relever qui sont vraiment de grande importance. On le voit avec le réchauffement aussi climatique. On le voit aussi avec les problèmes de circulation. Il faut vraiment prendre du recul et aller sur ce qui est le plus évident. On veut développer l'économie. Si on veut développer l'économie, ben, il faut commencer par effectivement des équipements structurants et pas effectivement juste des équipements pour faire la fête et qui vont coûter...
Structurants mais gérables.
Mais gérables, oui. Voilà.
Ou même des petites choses. Excusez-moi Jean-Claude. Hier encore, je passais, je faisais mon tour de vue, je passe devant l'école Arago en fait. Hein. Magnifique façade, fait 19e comme celle du collège cité. J'espère que le département
moins bon,
a bien lu, le conseiller général a bien lu mon papier sur le sujet. Je passe devant l'école Arago. Qu'est-ce que je vois là? L'appareil des volets en ferraille, en fait, d'une laideur invraisemblable, une façade noire dégueulasse, passons-moi l'expression. Et juste dans mon champ de vision, juste derrière, la tour de la basilique Saint-Paul qui a été rénovée. Comment peut-on effectivement faire ça? Peut-on gérer un patrimoine, fait, de cœur de ville avec de telles contradictions, fait, dans le terme, si j'ai pu dire, et esthétique, en tout cas, voilà. À l'évidence.
Ça n'est pas le même style architectural.
Mais voilà le genre d'investissement qu'il faudrait faire en priorité.
Oui. Alors, Nicolas Saint-Cluc, on a beaucoup parlé, et c'est normal, puisque vous êtes à fond dedans, de gestion municipale. D'ailleurs, vous n'avez jamais caché dans l'association J'aime Narbonne que vous êtes là pour prendre la ville un jour et la gérer. Donc il n'est pas exclu et impossible qu'un jour, ça soit vous qui héritiez justement de cette situation. Maintenant, vous êtes également au Parti Socialiste, membre du Parti Socialiste. Alors un parti qui aujourd'hui, Michel ne me démentira pas, traverse un certain nombre de
turbulences.
Vous, votre sensibilité... Donc de socialiste, qu'est-ce qu'elle vous souffle aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle vous pousse à faire?
Par exemple, est-ce que l'annonce de Monsieur Le Drian, en fait, hein,
rejoignant Macron,
vous inspire, en fait, ou vous, comment dirais-je, vous interroge?
Ou vous choque?
Moi, ça me choque. Ça me choque parce que, vous savez, souvent on reproche aux adhérents, aux membres du PS, lorsqu'ils commettent des impairs, lorsqu'ils font ils vont voir un peu ailleurs parfois, ou ils respectent pas les ordres de la fédération ou du national, on peut les exclure. Et on s'aperçoit que finalement, ceux qui donnent pas l'exemple, c'est ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire, effectivement, des ministres, des gens qui sont très bien placés. Et eux, on parle pas d'exclusion ni rien. Et finalement, ils donnent un mauvais exemple. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a eu un vote, que le choix a été fait,
il y a des règles.
Et ce qui manque aujourd'hui, d'ailleurs, dans la plupart des endroits, on le voit, ce qui se délite, c'est on respecte plus les règles, on respecte plus les décisions qui sont prises. Moi, je suis pour la démocratie, pour la collectivité. On peut penser parfois que le plus grand nombre, ceux qui ont décidé, n'ont pas raison. On peut ne pas avoir la même idée. Mais une fois que le choix est fait, on doit se ranger derrière. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, Hamon, finalement, il revient sur certains projets. Il a quand même l'intelligence de se dire le revenu universel, tout de suite, sans condition de revenu à tous les jeunes, etc. Ben, je reviens un peu en arrière, parce que finalement, j'ai écouté, je peux amender mon projet, etc. Pour faire en sorte que plusieurs tendances soient aussi respectées et que aussi la vie des autres puisse être prise en compte. Ça, c'est faire preuve d'intelligence. Donc moi, je vous le dis franchement, moi, au départ, j'avais soutenu Valls, plus avec la tête, d'ailleurs, qu'avec le cœur. Parce que moi, le projet on le voit d'ailleurs, les jeunes, ils ont voté pour Hamon. Pourquoi? Parce qu'il leur propose un projet de société. Moi, je pense qu'il a 20 ans d'avance, Hamon. 20 ans. C'est-à-dire que quand on parle de revenu universel, c'est vraiment l'évolution dans 20 ans, effectivement. Je lis beaucoup aussi de revues scientifiques et je m'aperçois qu'effectivement, beaucoup, beaucoup de métiers vont disparaître, pratiquement 50%, dont des métiers qui font appel à la tête, c'est-à-dire à l'intellectuel.
Mais vous croyez qu'une société est envisageable avec ce système-là?
Vous dites les jeunes, en fait, Nicolas, mais les jeunes...
Socialiste, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, jeune socialiste en tout cas. Mais et c'est vrai que son projet, voilà, il y a beaucoup de, je pense qu'il a un temps d'avance. Mais après, il faut l'adapter. Et si il y a aussi les énergies renouvelables qui vont se développer, il y a aussi de nouveaux emplois qui vont être créés. Et c'est en fonction aussi de l'évolution de la société par rapport au solde, hein, entre qu'est-ce qu'il y a comme création d'emplois, qu'est-ce qu'il y a comme disparition, qu'on voit si après effectivement, on peut faire un revenu universel ou pas. Et si on n'a pas besoin de le faire, eh bien, tant mieux. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui ce que tout le monde dit, ce que tous les spécialistes disent effectivement, c'est que ben il va y avoir une perte d'emploi assez colossale. Et le problème de la formation et de l'éducation, eh ben on n'a pas aussi mis en adéquation peut-être nos formations par rapport au monde de demain. Et là il y a aussi un autre sujet qui demanderait beaucoup de temps.
Et un tout dernier mot alors en tant que socialiste, Nicolas Saint-Cluc, ces deux gauches soi-disant irréconciliables au sein du parti, vous voyez quand même le parti les synthétiser, si je puis dire, pour reprendre du vocabulaire socialiste.
Oui, mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé aussi par le passé, il y a eu plusieurs fois des épisodes de ce type. La seule chose, c'est que là, effectivement, on voit bien qu'il y a une guerre de pouvoir et de chef aussi. Hein. Il y en a qui visent déjà après la prise du Parti socialiste. Bon, voilà, mais ça, c'est. Je crois qu'il faut aussi que les gens maintenant se disent les choses, qu'il y ait plus de réunions aussi, où on se dit vraiment les choses, qu'on crève l'abcès. Et après, ben, si effectivement il y a besoin d'une refonte du Parti socialiste et d'une redéfinition, eh bien, il faudra qu'elle ait lieu. Et puis voilà.
Ah, ben voilà, ce qui est réaliste et pragmatique. Merci Nicolas Saint-Cluc d'avoir été notre invité aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Le prochain, ben, sera encore un socialiste, même si c'est pas tellement le sens de notre invitation, puisqu'il s'agit de Jacques Bascou, qui viendra nous parler de son projet de territoire Grand Narbonne 2030, qu'il entend présenter devant tous les conseillers municipaux du Grand Narbonne au théâtre le 24 mars. Et il a accepté de venir en primeur nous dévoiler un petit peu ce qu'il entend par ce grand projet Grand Narbonne 2030. Vous parliez d'une société dans 20 ans, Monsieur Saint-Cluc. Là, on n'est que dans une douzaine d'années. C'est quand même déjà de la prospective et de la perspective.
Ce qui est dans la compétence de l'agglo. Elle doit définir un projet à cette échéance-là.
Et c'est de la politique au bon sens du terme.
C'est ça, tout à fait.
Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.